3h à Paris, 1h en temps universel, 2h à Kinshasa.
Antoine Galen.
À la une, le conflit dure depuis plus de 30 ans. Il est temps d'y mettre fin. Les mots de Massad Boulos au sujet du conflit en RDC. Le conseiller principal pour l'Afrique appelle le Rwanda à cesser son soutien au M23 et à retirer ses troupes de l'est du pays. C'est une image rare, celle du ministre saoudien de la Défense à Téhéran ce jeudi. Une visite qui illustre le rapprochement diplomatique entre l'Iran et l'Arabie saoudite. En France, l'ex-président François Hollande présente son premier projet de loi pour instaurer un statut de réfugié scientifique. Et ce tandis que les chercheurs américains sont de plus en plus menacés par Donald Trump. Et puis nous serons en Corée du Sud, où les fans de K-pop sont prêts à tout pour voir leur star préférée, même dans les aéroports. Massad Boulos parle sans détour. Ce jeudi, le conseiller principal pour l'Afrique a déclaré, je cite, que le Rwanda devrait cesser tout soutien au M23 et retirer ses troupes de l'est de la République démocratique du Congo. Une prise d'opposition après sa tournée du 2 au 9 avril qu'il a conduit en RDC, au Rwanda, en Ouganda et au Kenya. Accompagné de Corinna Sanders, sous-secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Massad Boulos a également confirmé l'existence de discussions autour d'un accord minier entre Kinshasa et Washington. Les précisions de Passion Ligaudi.
La position américaine reste inchangée vis-à-vis du Rwanda et de la FCM 23 et Massad Boulos ne mâche pas ses mots.
M23 doit rendre les armes et les forces rwandaises doivent se retirer de la RDC. Cela est notre position. C'est une position très claire. Nous l'avons exprimée sans détour et nous allons continuer d'avancer dans ce sens.
Une ligne sécuritaire qui s'inscrit dans la continuité de l'administration précédente. Mais la nouveauté, c'est la volonté de renforcer la coopération économique avec la RDC. D'où l'accord minier actuellement en négociation avec Kinshasa.
Le but, c'est de faciliter les investissements du secteur privé et en même temps fournir un soutien complet.
Selon Massad Boulos, d'autres accords du même type sont envisagés dans la région. Dans cette stratégie mêlant pression diplomatique et offre économique, Washington reste actif sur le plan politique.
Nous sommes en train de dialoguer avec les deux parties. J'aimerais dire également que nous avons apprécié les dialogues entre l'administration du président et le M23 pour la première fois. C'est quelque chose qui a été très utile.
Il a salué un premier geste, le retrait de la FCM23 de Wali Kale Centre et d'y espérer d'autres signes concrets de part et d'autre.
Direction le Proche-Orient, au moins 40 Palestiniens sont décédés dans des bombardements israéliens selon les secours. La plupart étaient déplacés et ont trouvé refuge dans des camps de fortune. Les ONG s'inquiètent et indiquent que l'aide humanitaire à Gaza est menacée d'un effondrement total en raison du blocage de l'aide humanitaire par Israël depuis le 2 mars. Du côté des négociations, le Hamas dit qu'il n'acceptera qu'un accord complet avec Israël. L'État hébreu avait proposer une trêve temporaire de 45 jours selon certaines conditions. C'est une visite inédite. Le prince Khalid bin Salman, ministre saoudien de la Défense, s'est rendu en Iran. Un déplacement qui marque le rapprochement des deux pays, Siavosh Ghazi.
C'est la première fois depuis la révolution islamique de 1979 qu'un ministre saoudien de la Défense effectue une visite en Iran. Il a été reçu par le chef d'état-major des forces armées, mais aussi par le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, qui a exprimé la volonté de rapprochement de son pays avec l'Arabie saoudite. Les deux pays peuvent être complémentaires, a déclaré le numéro 1 iranien. Cette visite surprise intervient en pleine tension entre l'Iran, les États-Unis et Israël à propos du programme nucléaire iranien. Samedi, une nouvelle rencontre est prévue entre Iraniens et Américains sur le dossier. Surtout, on est loin de l'époque où l'Iran et l'Arabie saoudite s'affrontaient en Syrie, au Yémen ou encore au Liban. Téhéran et Riyad avaient rompu leurs relations diplomatiques après le saccage de l'ambassade de l'Arabie saoudite en Iran en 2016. Les deux pays ont décidé de reprendre leurs relations en 2023. Cette visite intervient aussi alors que les États-Unis et Israël menacent d'attaquer les sites nucléaires iraniens en cas de non-accord sur ce dossier avec Téhéran. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
Autre visite à Téhéran, celle du chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi. Il s'est entretenu avec son homologue iranien ce jeudi, tandis que les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran sur le nucléaire vont se poursuivre samedi à Rome. De son côté, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou indique qu'Israël n'autorisera pas l'Iran à avoir l'arme nucléaire. Au Yémen, les Houthis font état d'un bilan de 20 morts, dont 5 secouristes. Les rebelles yéménites pointent du doigt ce vendredi une frappe américaine. Washington annonce avoir détruit un port en mer Rouge. Ce jeudi, le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient avait expliqué que l'objectif de ces frappes était de s'en prendre aux sources économiques du pouvoir des Houthis. Les universités américaines de plus en plus préoccupées par les actions de l'administration Trump. Dernier exemple en date, la suppression de plus de 2 milliards de dollars de subventions à Harvard et la menace d'interdire à l'établissement d'accueillir des étudiants étrangers. Une pression grandissante que la France pourrait utiliser afin d'attirer des cerveaux venus des États-Unis. L'ancien président et désormais député François Hollande vient ainsi de déposer une proposition de loi créant un statut de réfugié scientifique. Aurélien Devernois.
L'objectif, c'est d'adapter rapidement le droit d'asile français pour accélérer les procédures d'accueil des chercheurs et scientifiques, explique-t-on dans l'entourage de François Hollande. Les coups de boutoir de Donald Trump pourraient en effet provoquer l'exil de centaines d'intellectuels installés aux États-Unis. Le président de l'université d'Aix-Marseille, Éric Berton, avec lequel l'ancien chef de l'État a signé une tribune à ce sujet, a d'ailleurs lancé un programme d'accueil, ayant déjà reçu 300 candidatures. Le problème, c'est que le cas des chercheurs et scientifiques empêchés de travailler sur leur dossier de prédilection n'existe pas aujourd'hui dans la loi française, d'où la nécessité de créer un cadre juridique simple et durable, explique François Hollande. Sa proposition de loi a donc été déposée ce lundi à l'Assemblée nationale avec l'espoir d'un examen dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Mais cela ne suffira sans doute pas. Il faudrait également un mécanisme européen d'accueil, d'ores et déjà demandé par les sociodémocrates élus au Parlement européen. Et surtout de l'argent, beaucoup d'argent, les universités américaines offrant des conditions financières aujourd'hui incomparables avec celles proposées en France et en Europe.
Coupe budgétaire, mais aussi tarifs douaniers. Le président américain Donald Trump s'est dit sûr à 100% qu'un accord sur les droits de douane avec l'Union européenne serait conclu. Déclaration lors de la visite à la Maison-Blanche de Giorgia Meloni ce jeudi. La première ministre italienne a fait front commun en se disant certaine qu'un accord sera trouvé. En Lituanie, l'interdiction du mariage pour tous jugée inconstitutionnelle. Verdict du tribunal ce jeudi qui se base sur le code civil. La Cour constitutionnelle affirme que les préjugés ne justifient pas la restriction des droits fondamentaux. Le premier ministre lituanien a déclaré qu'il appartient désormais au Parlement de légaliser les unions civiles. RFI, 10h08 à Séoul. Les fans de K-pop se précipitent dans les aéroports de la capitale sud-coréenne dès qu'ils repèrent leur idole. Conséquence, les halls d'aéroports sont bondés et cela engendre d'importants problèmes logistiques. Et ce n'est pas tout, ces rassemblements sont permis par des réseaux de recel d'informations sur les vols des stars de la chanson. Correspondance de Celio Fioretti à Séoul.
Bousculade à l'aéroport de Gimpo, près de Séoul, entre passagers, sécurité et fans de K-pop venus assister au départ de leur groupe préféré, gênant le fonctionnement de l'aéroport. Une scène qui devient de plus en plus fréquente depuis la mise en place de réseaux de recel d'informations de vol. Sur les réseaux sociaux, des employés de compagnies aériennes ayant accès à des données privées vendent aux fans, parfois contre moins d'un euro, les informations exactes d'arrivée et de départ de célébrités, un réseau qui facilite les regroupements de fans aux aéroports. Un problème qui dépasse les autorités qui craignent pour la sécurité des stars de K-pop dans les aéroports et même durant les vols. Certains fans ont déjà acheté des billets sur les mêmes vols pour s'approcher de leur idole. La police travaille avec les agences d'artistes pour démanteler ces réseaux de recel d'informations. En février, la police sud-coréenne a arrêté une jeune femme suspectée d'avoir vendu pour 7 000 euros d'informations confidentielles sur les itinéraires de nombreuses célébrités. C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
Et puis Google reconnu coupable d'avoir abusé de sa position dominante, plus particulièrement sur le marché de la publicité sur Internet. Deuxième défaite pour le géant américain, déjà jugé coupable de pratiques anticoncurrentielles dans la recherche en ligne. Une juge fédérale estime que cela a causé des dommages importants à ses clients et empêché ses rivaux de lui faire concurrence. Google a fait part de son intention de faire appel. L'affaire pourrait monter jusqu'à la Cour suprême. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.